Bienvenue, chers auditeurs, dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Pour suivre toute notre actualité, dont les nombreuses conférences d'Olivier Bonassi en France, rendez-vous sur notre site internet mariedenazareth.com. Vous y trouverez toutes les dates. Olivier Bonassi est le directeur exécutif de l'association et auteur du livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Nous le recevrons avant l'été dans l'émission. Alors aujourd'hui avec Yucina, nous parlerons de la théologie de Tchernobyl. Quel drôle de titre, pourquoi nous baptisons les enfants ?
Oui, bonjour.
Bonjour Yucina. Aujourd'hui, mon invitée est une femme, Elisabeth de Baudouin, auteure d'un magnifique livre, La folie du totus tous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de 3 autres ouvrages, Thérèse et François, Vera Grita, une vie eucharistique et Les saints nous conduisent à Jésus, entretien sur la vie chrétienne, en collaboration avec François-Marie Lettel. Nous évoquerons donc après la pause musicale votre remarquable livre La folie de totus tous. Et grâce au titre, nous savons déjà qui nous évoquerons.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Alors Yustina, parlez-nous du baptême.
Oui, bonjour chers auditeurs, nous continuons notre cycle apologétique et maintenant nous avons déjà parlé de la chute d'Adam et de ses conséquences il y a quelques semaines. Il faudrait que nous abordions quelque chose de positif et je vous propose d'aborder le sujet du baptême. Et afin que nous restions sur nos rails apologétiques, je vais me concentrer sur le baptême des enfants, un sujet qui fâche certains. Qu'est-ce que le baptême et à quoi sert-il ? Certains affirment que le baptême des enfants n'est pas possible ou pas valable, car le baptême lui-même se résume à une action rituelle suite à une déclaration publique de ses convictions. Accepter Jésus comme son propre sauveur, comme ils le disent. Un bébé peut-il avoir des convictions et les déclarer en public ? Bien sûr que non. Un bébé a-t-il fait un mal dans sa vie si courte ? Bien sûr que non. Il n'a même pas besoin de se repentir dans le sens juridique du terme. Il n'y est pour rien. De là, nos interlocuteurs disent « Alors ne baptisez pas les enfants, ce n'est pas biblique ». Effectivement, nous avons des versets bibliques qui confirment que le baptême arrive comme acte de repentance d'une part et comme une entrée dans l'Église en tant qu'assemblée des fidèles. Mais hélas, ce n'est qu'une dimension du baptême parmi d'autres. Si le baptême n'était qu'un acte rituel suite à une déclaration publique, je ne vois pas la différence entre cela et l'adhésion à un parti politique ou au bizutage de la première année de la fac. L'Église n'est pas un parti ni une communauté étudiante. L'Église est le corps du Christ sur cette terre. La terminologie biblique nous invite à voir les choses de manière organique et non juridique. Si nous nous arrêtions au juridisme, dans ce cas-là, Léon Tolstoï, excommunié, je le rappelle, avait raison quand il disait « Je sais qu'Adam a péché à ma place. Je sais que le Christ a payé pour ma dette. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vont dire « Alléluia, Amen !» Quand nous parlons des mystères du salut, nous devrions toujours comprendre d'où nous partons. Si nous comprenons la chute d'Adam d'un point de vue uniquement juridique, c'est-à-dire uniquement comme un acte de désobéissance d'Adam qui suscite la colère divine et une soif de vengeance de la part de Dieu, afin d'abreuver cette soif de justice de Dieu le Père, qu'il devra tuer son propre fils pour nous pardonner, pardon, ce n'est pas un modèle théologique digne de ce nom, mais un épouvantail à encore faire peur aux athées et aux petits-enfants qui certainement deviendront athées suite à une telle catéchèse. Je vais vous raconter une petite histoire autrement. Imaginez que vous vivez près d'une centrale électrique nucléaire. Et un jour, un accident se produit à cette centrale, comme à Tchernobyl. Vous avez travaillé à la centrale le jour de l'accident et peut-être que vous y êtes pour quelque chose. Vous avez un enfant de 2 mois et vous venez de devenir papa. Le hic est que vous avez tous été irradiés, que ce soit de votre faute ou pas, votre bébé n'y est pour rien. Vous recevez un message « Cher citoyen irradié, je suis médecin, je vous apporte l'antidote qui va vous protéger de la radiation. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi afin que je puisse vous administrer l'antidote. » Est-ce que dans telles conditions, vous allez vous mettre à réfléchir « Oui, l'accident, c'est de ma faute, j'irai prendre rendez-vous avec le médecin, il va m'administrer l'antidote et pourquoi pas ne pas faire acte de repentance publique. Par contre, mon bébé n'y est pour rien, il n'est pas conscient, il n'a rien fait de mal, donc il n'a pas besoin ni de rendez-vous, ni du médecin, ni de l'antidote. Après tout, il doit faire un choix conscient s'il veut grandir avec l'antidote ou pas, je ne peux pas le forcer. » Je ne connais pas de parents dotés de bon sens qui pourraient réfléchir ainsi dans de telles circonstances. Dans cette allégorie, la radiation est la conséquence de la chute d'Adam, la corruptibilité de la nature humaine, le médecin est le Christ, le rendez-vous est le baptême et l'antidote est l'Eucharistie, dans laquelle nous communions à sa nature humaine, parfaite du nouvel Adam, qui n'est pas irradié par la mort et nous participons aussi à sa nature divine. Quand nous parlons du fameux péché dans ce contexte, il ne s'agit point d'un acte criminel, immoral, conscient, mais de l'état de la nature humaine après la chute. Il faudrait libérer le terme de péché de son emprise juridique. Cela nous ferait du bien à tous. Combien de débats inutiles pourraient cesser ce jour-là, par exemple celui qui se fait toujours autour du dogme catholique romain de l'Immaculée Conception de Marie.
Ah, tutute. Indiscutable, Justina, Marie a été conçue sans péché. Elle était en quelque sorte préparée pour Dieu. Il fallait cette pureté pour accueillir le Christ. C'est poser la nécessité d'une mère absolument sainte, digne de cette mission. Il fallait qu'elle soit une digne mère de Dieu, exemple de péché originel. Bon, je défends la Vierge Marie.
Bon, je comprends. Mais le problème de fond dans notre affaire de baptême, c'est que, bon, je vais le dire, hein, les protestants, et pas tous, hein, s'attachent au sens juridique du mot péché. Et rien que pour lancer une pique aux catholiques, ils vont dire qu'elle était une pécheresse. Le bon catholique romain, à qui on vient d'imposer un paradigme juridique mélangé à une insulte, lance son offensive. Tout cela au lieu de se mettre d'accord à propos de qu'est-ce que le péché. Est-ce que les enfants sont pécheurs dans le sens juridique du terme? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'ils subissent les conséquences de la chute d'Adam, même s'ils en sont nullement conscients ni responsables? Oui, car ils sont hélas mortels. La mortalité est la première des conséquences de la chute, car le prix de la chute est la mort. Si nous sommes tous contaminés par la mort, y compris les enfants, ils sont, entre guillemets, pécheurs par nature. Dans ce cas-là, pourquoi je refuserais l'antidote à mon enfant? Tout en sachant que l'antidote ne peut être administré sans rendez-vous, comme il n'y a pas d'Eucharistie sans le baptême. Maintenant, je vais assaisonner mes propos avec quelques arguments bibliques, même si je préfère nettement l'explication d'avant. Pouvons-nous trouver dans l'Ancien Testament un concept de peuple de Dieu? Bien sûr, Israël. Quel rite initiatique devait vivre tout juif de sexe masculin au 8e jour après sa naissance? La circoncision, une marque d'appartenance à l'Église, hétérostémentaire pour les hommes. Si Dieu a bien voulu cela, qu'aurait-il donc contre le baptême des enfants dans sa nouvelle alliance? On peut supposer qu'il n'y s'y oppose pas. Le Christ et les apôtres ne l'ont jamais interdit de manière explicite. Le Christ disait au contraire de ne pas empêcher les enfants de venir à lui. Dans les Actes des apôtres, nous voyons des passages où les familles entières reçoivent le baptême, y compris les serviteurs de la maison. Je serais extrêmement surprise si on arrivait à me démontrer que dans une société antique, le mot « famille » ne sous-entend pas la présence des enfants, car on considérait même les esclaves comme membres de la famille. L'incompréhension vient aussi du simple fait que les auteurs du Nouveau Testament s'adressent aux adultes et ne pensent pas à nos amis sur la Scriptura qui ont besoin d'une prescription claire pour la moindre des choses. La question de fond dans ce débat sur le baptême des enfants n'est pas de se lancer mutuellement des versets scriptuaires, mais de réfléchir ensemble avec son interlocuteur et aller vers le fond du problème. Qu'est-ce que la chute et le salut? Si ce n'est qu'une question de colère divine, de sa soif de justice, de la culpabilité humaine, c'est certain qu'on ne risque pas d'aller loin dans ce débat. Si le salut se résume à une conviction et une déclaration publique, et non à un processus de toute une vie, avec qui et de quoi parlons-nous? Si nous voyons les conséquences de la chute comme une maladie, le salut serait donc une guérison de maladie, et non pas un procès gagné au tribunal. Et le baptême serait une prise de rendez-vous avec le médecin et non un discours d'avocat. Quand nous sommes malades, et nous le savons, il ne faudrait pas trop attendre.
Attendre, c'est sûr. Merci beaucoup, Justina. Alors, pour la pause musicale, nous allons écouter maintenant Totus Tuus.
Do Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
La folie du totus tous. Ce titre, chère Elisabeth de Bedouin, nous fait d'emblée penser à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et au pape Saint Jean-Paul II. Pour vous dire la vérité, j'ai même pensé avant à Saint Jean-Paul II quand j'ai reçu votre livre. Alors, celui qui mène les foules à Jésus par Marie est le pape de la Vierge Marie. Même si d'autres, rappelez-vous, ont parlé de la Vierge Marie, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a su tout synthétiser leurs propos. Dans votre ouvrage, nous avançons pas à pas à la découverte de cette communion que nous pouvons vivre avec le Christ grâce à la Vierge Marie. Et cela en suivant les pas de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort chaque fois. Tout d'abord, 30 000 personnes vont se recueillir chaque année sur sa tombe en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, alors qu'on a l'impression qu'il n'est pas si connu que ça. C'est quand même phénoménal. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce grand saint.
Alors, c'est un prêtre. Permettez-moi d'en parler au présent, puisqu'il est vivant. Donc, oui. On va en parler dans la communion des saints. Il est né en 1673 et il est mort en 1716. Donc, il a vécu à la charnière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il est mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. C'est pour ça qu'on pense qu'il est vendéen, mais en fait, il est breton. Il est né dans une commune qui s'appelait à l'époque Montfort-la-Canne, qui est devenue Montfort-sur-Meu depuis. Et Louis Grignon, parce que c'était son nom, a voulu qu'on accole à son nom celui de Montfort, parce qu'il avait été baptisé dans cette commune de Montfort-la-Canne et qu'il attachait une très grande importance au baptême. Alors, qu'en dire sinon? Bien que très jeune, il a trois grands amours dans sa vie. Le Christ, bien sûr, la Vierge. D'ailleurs, il voudra aussi qu'en plus de Montfort, on rajoute Marie à son nom. Et c'est pour ça qu'il est passé à la postérité sous le nom de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis les pauvres. Et on pourrait ajouter un quatrième amour, c'est celui de la pauvreté. Il la vivait tellement qu'il est arrivé à des pauvres même de le prendre pour l'un d'eux et de se cotiser pour lui offrir des nouveaux vêtements ou autres. Bon. Donc un prêtre, un missionnaire aussi, un géant de la mission même. Il a réévangélisé tout l'ouest de la France grâce à ses fameuses missions paroissiales. Il en a prêché plus de 400 dans les dernières années de sa vie. Ce sont des missions qui avaient un très grand retentissement. Il y avait, dans les paroisses, il y avait un avant et un après. Et puis, elles ont eu un tel impact. Grâce à ces missions, il a réévangélisé de façon tellement durable, tellement profonde et durable, que quelques décennies plus tard, quand la Révolution française va éclater, eh bien, ce sont ces régions-là, ces régions même qu'il avait évangélisées, qui vont se soulever pour la défense de la foi. Et on ne peut pas ne pas penser que Louis-Marie de Montfort n'y est pas pour quelque chose.
Bien sûr.
Alors donc, son œuvre missionnaire lui a perduré à travers ses disciples. Il est à l'origine de plusieurs congrégations qu'il a créées indirectement ou directement, parmi lesquelles la Compagnie de Marie, plus connue sous le nom de Congrégation des missionnaires montfortains. Et puis aussi, grâce à son œuvre, il est l'auteur d'une œuvre écrite très abondante. On connaît parfois ses cantiques, même si on ne sait pas toujours qu'ils sont de lui. Il y a aussi l'amour de la sagesse éternelle. Et puis surtout, il y a le fameux, son livre phare, le fameux traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.
Alors justement, ce livre, il a été miraculeusement découvert.
Ah oui, oui. Il a une histoire rocambolesque, si on peut dire, parce qu'il n'a été découvert que plus d'un siècle après la mort du père de Montfort. Il a été découvert en 1842, pour mémoire. Donc, le père de Montfort était mort en 1716, donc plus d'un siècle plus tard. Et il a été découvert par hasard à Saint-Laurent-sur-Sèvre, par le bibliothécaire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui était entre-temps devenu berceau de la famille Montfortaine, puisque c'est là qu'il était mort, qu'il était enterré, le père de Montfort. Et donc le bibliothécaire trouve ce manuscrit par hasard et dit « Tiens, mais ça c'est l'écriture de notre fondateur », et donc il l'amène au supérieur, le père d'Alain, supérieur de l'époque. Le père d'Alain confirme, et puis il le lit et il dit « Nous avons trouvé un trésor ». Le trésor, en l'occurrence, va être édité dès l'année suivante. Il va se répandre dans le monde entier. Il va faire l'objet de multiples éditions dans de très nombreuses langues. Il va devenir ce qu'on appelle un best-seller de la vie spirituelle. Ces livres qui sont pas parce qu'ils sont bien écrits, encore que, ils sont quand même souvent bien écrits, mais ils sont brûlants parce que leurs auteurs sont non seulement des saints, mais des grands saints. Donc c'est un ouvrage qui a eu une influence considérable sur le peuple de Dieu et la vie de l'Église pendant toute la deuxième moitié, dès sa découverte, quoi, en fait.
Et ce livre, on savait qu'il existait ou alors c'était une découverte
totale ?
Non,
c'est découverte, on n'en a pas de traces. Il y a eu toutes sortes de légendes qui ont couru, mais en réalité, je le tiens du père Olivier Maire, qui est, vous savez, ce religieux qui a été assassiné à Saint-Laurent, qui était en fait le supérieur des Montfortins de France et qui était un grand érudit et qui connaissait par cœur l'histoire du traité. Et à l'époque, j'avais travaillé sur ce sujet. Il m'avait dit que tout ce qui faisait référence à des supposées traces de ce texte avant sa découverte, ce n'était que des légendes, en fait.
Ah oui. Alors, ce livre a accompagné nombreux séminaristes jusqu'en 1968. Après, il a été banni parce qu'on considérait qu'il était dépassé.
Il lui est arrivé ce qu'il est arrivé à beaucoup de ces best-sellers spirituels au moment de cette crise des années 68-70, c'est-à-dire qu'il a été écarté, comme l'Imitation de Jésus-Christ ou même l'Histoire d'une âme de Thérèse. Banni, non, parce qu'en fait, certains ont continué à se le procurer, à le lire. Moi, personnellement, je l'ai découvert dans ces années-là, 75, par là, 80. Oui. Et donc, c'est vrai que le livre et la spiritualité qu'il développe était en berne, ça c'est sûr. Alors que dans toute la période précédente, eh bien, il a fait des saints. Tous les saints qui ont vécu avant, de 42-43 jusqu'à cette crise, ont été peu ou prou marqués par ce traité. Même le curé d'Ars, vous voyez, par exemple, Maximilien Kolb, etc.
Alors, j'ai l'impression qu'il est de nouveau apprécié par les uns et les autres. De plus en plus, on voit fleurir des éditions. Je pense que Jean-Paul II aussi a repris le relais de son frère prêtre. On peut dire que c'est ce retour en grâce ou c'est grâce à lui ?
Ah oui. En fait, le père de Montfort a initié l'aventure. Je ne dis pas qu'il l'a créée parce qu'il n'en est pas l'inventeur de la voie mariale. D'autres en ont parlé avant lui, mais lui, il l'a initié parce qu'il l'a mis à la portée du plus grand nombre, notamment à travers ses fameuses missions. Et donc, mais par contre, le Saint Jean-Paul II l'a relancée à une époque où elle était un peu tombée en désuétude. Et vraiment, et en la relançant, comme il était pape, je ne vous apprends rien, et ben il a rendu cette spiritualité à l'Église universelle, et notamment à travers sa fameuse devise, le totus tuus, qui a fait le tour du monde grâce à lui, mais pas que. Il s'y est pris, je dirais, un peu comme le père de Montfort, c'est-à-dire par la parole et par l'écrit. Il a fait des confidences, il en parlait, etc., durant ses homélies. Et puis, il est l'auteur de lettres apostoliques sur la spiritualité montfortaine. Il a même fait une référence, d'ailleurs, au père de Montfort dans une encyclique, Redemptoris Mater, etc. Puis, il a posé des actes forts. Il est venu à Saint-Laurent-sur-Sève. Donc, vraiment, il a rendu la spiritualité montfortaine, dont il disait qu'elle fait partie intégrante de sa vie et de sa théologie spirituelle, il l'a rendue à l'Église. Voilà.
Alors, vous évoquez la divinisation de l'homme. C'est très intéressant parce que vous citez une babysitter. C'est très, très pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, s'il vous plaît ?
Elle m'a épatée, cette babysitter. C'est vrai que je la raccompagnais après, justement, un babysitting. Et puis, elle me demande très poliment, c'était sur des petites routes de Bretagne, elle me demande très poliment, alors ce nouveau livre que vous écrivez, c'est sur quoi ? Alors bon, j'avance, c'est sur le totus tuus. Et puis, je me dis, je vais lui expliquer. Alors, j'ai dit, c'est une spiritualité qui consiste à aller au Christ en passant par Marie, à passer par Marie, à s'appuyer sur elle, à se donner entièrement à elle, corps, biens et âme, toute sa vie, etc. C'est ça la consécration, en fait, se donner à Marie totalement, pour être tout à Jésus. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'elle... Et puis alors j'ajoute, ça te parle ? Je ne sais pas, est-ce que ça te parle ? Elle s'appelait Marie, d'ailleurs, cette jeune fille. Okay. Et elle me dit, ben oui, c'est logique, contre toute attente, elle me dit ça. Elle me dit, ben oui, Dieu est venu chez les hommes et il est descendu sur terre par Marie. Alors c'est normal que dans l'autre sens, on fasse pareil. Et je me suis dit qu'en quelques mots, elle a mis le doigt, elle a, comment dire, elle a, elle a explicité ce double mouvement, vous voyez, qui est par lequel Dieu est descendu sur terre, a envoyé son Fils, hein, c'est le mystère de l'incarnation, hein, et puis l'autre, c'est-à-dire l'homme qui remonte vers Dieu, hein, la divinisation de l'homme qui remonte vers Dieu, et c'est toujours par Marie, en fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la petite couronne de la Très Sainte Vierge Marie et le contrat d'alliance ?
Alors, la petite couronne, si vous voulez, bon, moi, je ne suis pas une spécialiste. Bon, je crois que c'est trois pater et 12 ave en l'honneur des 12 grandeurs de la Vierge.
Dites chaque jour.
Pas, oui, mais voyez, ça fait partie des pratiques. C'est à replacer dans le cadre de ce que le... au chapitre de ce que le père de Montfort appelle les pratiques de cette dévotion. Et j'ai envie de dire, on doit vivre cette dévotion dans la grande liberté des enfants de Dieu. C'est une pratique parmi d'autres. Il y a aussi il y a le Magnificat. Hein, le père de Montfort suggère, par exemple, de le réciter après la communion. Vous voyez, bon. Et puis il y a bien sûr le chapelet. Hein, le père de Montfort était tertiaire dominicain, donc il attachait une très grande importance à la récitation quotidienne du rosaire. Voilà, c'est bon. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est la consécration. À l'acte de consécration, alors là, c'est ça vraiment qui est au cœur de cette spiritualité. Hein. Et puis alors le contrat d'alliance, et ben c'est ce que le père de Montfort proposait justement à la fin de chacune de ses missions. Hein. Donc il y avait le renouvellement pour faire suite à ce que disait ma
Justina.
Voilà, donc le renouvellement des promesses du baptême, parce que précisément, comme à cette époque-là, on était toujours baptisé quand on était au berceau. Donc le père de Montfort disait qu'il fallait renouveler une fois adulte. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, ça ne remet pas en cause ce que vous disiez, n'est-ce pas? Et puis, à la fin de ce contrat d'alliance, et bien justement, on se donnait totalement au Christ par les mains de Marie. Et donc, ce contrat, aujourd'hui, ben il a été remplacé par l'acte de consécration, hein, qui est solennel pour rentrer, hein, j'ai envie de dire, pour passer le péage. Et donc, qui se vit au jour le jour, n'est-ce pas, bien sûr.
Il y a un terme dans l'acte de consécration qui fait toujours peur aux gens, qu'on entend, on entend souvent les gens dire « oui, le terme esclave est utilisé ». Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce mot esclave qui finalement est plein d'amour?
Ah oui, alors c'est une expression qui est un peu, le saint esclavage qui est un peu à double tranchant, hein, qui peut soit choquer ou soit séduire. Hein. Bon, il y a des gens qui sont attirés, hein, qui sont rentrés dans cette dévotion parce qu'ils avaient vraiment le désir d'être l'esclave de Marie. Hein, des grands hommes, hein, qui ont, Jean-Paul II, hein, il se considérait comme l'esclave de la Vierge. Hein, le cardinal Ivan Dias aussi, par exemple, un cardinal indien. Bon, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, le père de Montfort n'est l'inventeur ni du terme ni du concept. C'est un terme qui fait partie de l'école française de spiritualité et qu'en fait, il n'a que très peu à voir finalement cet esclavage d'amour avec l'esclavage de contrainte, hein, ne serait-ce que parce que, pour commencer, parce qu'il repose sur la liberté, sur l'amour. Hein, C'est parce qu'on se consacre à Marie librement et par amour, et puis on ne le fait pas une fois pour toutes, hein, c'est à rechoisir sans arrêt, voyez-vous. Mmh. Et donc, dans les fruits, et ben c'est le contraire, voyez. Ce n'est pas un esclavage qui conduit à la mort qui ne nous met pas dans les fers. Hein, Dieu est amour, et donc et bien c'est un esclavage qui rend libre et qui rend heureux. Voilà.
Merci beaucoup, magnifique. Vous disiez, pour terminer votre livre, que vous aimeriez qu'il soit le saint patron des missionnaires. Eh bien, en France, il aurait toute sa place encore.
Oui.
Merci beaucoup.
Oui, ça c'est vrai.
Merci beaucoup, Elisabeth de Baudouin. Je rappelle votre livre, La folie du Totus Tu chez Teki. Merci, Justina.
Merci.
Bonne semaine, chers auditeurs.